Le journal de la semaine avec vous Stéphane Leneuf.
Ce matin, je reçois Grégoire Bizot, rédacteur en chef adjoint à Libération. Bonjour.
Bonjour.
Et Alexis Brosé, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour.
Bonjour.
Le débat sur la déchéance de nationalité, on a envie de dire, il est enfin arrivé à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que le gouvernement a trouvé un bon compromis ?
Enfin, vous avez Alexis raison Brosé. De dire enfin, parce que ça fait quand même 2 mois et demi que ça dure, et c'est pas fini. Parce qu'ensuite, entre l'Assemblée nationale, puis Sénat, puis à nouveau Assemblée nationale, ça peut durer indéfiniment. Tout ça quand même ressemble quand même furieusement à un naufrage. Je vois maintenant pas bien comment on peut déboucher sur une solution. Finalement, des solutions, il y en a 3. Soit François Hollande, in extremis, ce que je ne crois guère, arrive à faire voter sa révision, et je crois pas qu'il en tire grand avantage, parce que tout ça a été tellement mal géré qu'on voit mal un résultat positif. Soit il est contraint, et aujourd'hui, ça me paraît l'hypothèse la plus probable, c'est de retirer son texte avant le Congrès, ça serait quand même une humiliation. Soit, pire encore, il va au Congrès, et là, la révision est refusée, et ça serait là un désastre politique.
Pourtant, Grégoire Bizot, le PS, visiblement, les députés socialistes, semblent avoir trouvé un terrain d'entente.
Un terrain d'entente de façade. Je crois qu'il y a un espèce de sentiment d'écœurement ou d'exaspération un peu non-dite, un peu rentrée chez les députés avec cette volonté d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais, comme le dit Alexis, malheureusement, je crois qu'on en est encore pour un bout de temps avec cette affaire. Parce que le gouvernement a essayé, Manuel Valls et François Hollande a essayé de faire croire qu'ils pouvaient concilier 3 choses totalement incompatibles, en fait. Inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, sans faire d'apatride et sans cibler les binationaux des Français.
Ce qui n'a pas de sens.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait un débat de droit public pour s'apercevoir que là, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et pourtant, ils ont essayé de faire rentrer la parole présidentielle de force dans une loi, et ça a donné quelque chose de totalement illisible, incompréhensible, y compris pour les députés qui... Un député socialiste qui nous confiait, on a le choix entre la bouillie et le bordel. Le gouvernement a choisi la bouillie, et aujourd'hui... Que les députés n'y comprennent rien, on a envie de dire c'est pas très grave, mais les citoyens, les Français, je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui dans ce pays quelqu'un qui peut dire mais au fond, mais pourquoi on fait ça et qu'est-ce que veut faire le gouvernement ? De ce point de vue-là, et quelle que soit l'issue de congrès, pas congrès, je crois que c'est un grand fiasco.
Je crois que François Hollande a voulu faire un coup, il a voulu rassembler,
c'est montrer raté, qu'il était le grand chef.
Ah ben de là, maintenant, il est raté. La question, c'est comment est-ce qu'il peut limiter la casse ? À mon avis, il a sous-estimé... Il a sous-estimé une chose, c'est les réticences de son propre camp. Il était tellement dans l'idée de faire son grand coup au Congrès qu'il n'a pas vu que cette affaire troublait la gauche et de façon authentique. Enfin, il y a vraiment toute une partie de la gauche qui ne veut pas de cette affaire. Il a surestimé son autorité sur son propre camp. Parce que c'est ça qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les gens ne lui obéissent plus et ne lui écoutent plus. Et puis ensuite, il a quand même mal techniquement géré l'affaire parce que il a lancé son truc de façon pas précise et puis il a donné le sens d'idée. Du coup, face à ses hésitations, toute une partie de la gauche s'est dit, il veut plus le faire, donc on peut dire qu'on est contre. Christiane Taubira, quand elle dit qu'on va le retirer, elle croit qu'on va le retirer. Donc tout ça a été géré n'importe comment, avec ses allers-retours. On en est à la 5e version, et il y a une chatte, n'y retrouvait pas ses petits.
Grégoire Bizot, la gauche sort en lambeaux de ce débat, on peut le dire. Est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de se reconstruire, de rebondir ? À l'Assemblée, quand on entend Cécile Duflot qui évoque Vichy quand on parle de ce débat, est-ce que la gauche peut rebondir après une telle fracture, on peut dire ?
C'est difficile à dire. Moi, j'ai envie, mais de penser qu'il s'est passé quelque chose de très important avec cette histoire de la déchéance. Et que ce feuilleton va laisser malheureusement des traces profondes, je crois, dans le quinquennat de François Hollande, puisqu'il a quand même tordu le bras d'une majorité qui s'est laissée tordre le bras pendant 4 ans parce que... Elle s'est convaincue elle-même qu'il y avait une... C'est la torsion de trop parce que il est allé sur le terrain des valeurs. Et comme l'a dit Alexis, je crois qu'il y a eu une... Et là, c'est tout à fait juste. Il y a eu une vraie faute stratégique, faute politique de la part de François Hollande. C'est quand même un peu surprenant. C'est qu'il a totalement sous-estimé que pour son propre camp, il y avait là une ligne jaune à ne pas franchir.
Si les choses allaient bien à côté, ça serait pas si grave. Il faut pas surestimer non plus l'importance de cette histoire. Je crois que déjà les journalistes en ont assez, mais alors les Français, je pense qu'ils en ont par-dessus la tête. Mais le problème, c'est qu'à côté, le chômage, ça ne marche pas, les déficits, ça ne marche pas, la croissance, ça ne marche pas. Enfin bon, donc si on rajoute une difficulté politicienne avec son propre camp face à un échec de gestion qui est quand même assez patent, c'est quand même très difficile de s'arranger.
Alors, échec de gestion de François Hollande, mais enfin, à droite, c'est pas mieux. La division s'est affichée au plein jour. François Fillon est contre, Alain Juppé, on sait plus trop. Nicolas Sarkozy, lui, a quand même redit qu'il était pour.
Ouais, enfin, pas encore tout à fait clairement.
C'est quand même pas très brillant non plus dans l'unité.
D'abord, la droite, elle est divisée sur le fond. Il y a une partie de la droite qui, depuis le début, Patrick Devedjian, Nathalie Kosciusko-Morizet, est vraiment contre, comme d'ailleurs une partie de la gauche. Donc, ceux-là, ils sont vraiment contre, et depuis le début, ils le disent. Après, il y a ceux qui disent, on va pas faire un cadeau à François Hollande. Bon, ça fait déjà un certain groupe. D'autres et puis, il y a ceux qui disent, on va embêter Nicolas Sarkozy, qui lui-même s'est mis d'accord avec François Hollande. Donc, si vous ajoutez ceux qui sont contre, ceux qui veulent embêter François Hollande, ceux qui veulent embêter Sarkozy, ça fait du monde.
Auquel on rajoute François Fillon, qui essaie de jouer sa carte personnelle, quand même, dans l'histoire.
Bah oui, parce que François Fillon, il voit bien la lassitude des parlementaires, au départ, il n'était pas contre le principe de la déchéance. Maintenant, il se dit, c'est l'occasion à la fois de montrer que je suis le premier opposant et de mettre Nicolas Sarkozy dans un corner, puisqu'il y a le fameux accord entre Sarkozy et Hollande sur cette histoire.
Ça peut marcher, Grégoire Bizot ?
Non, mais ce qui est un peu affligeant à la fois, c'est que il s'agissait, dans ce moment de totalement traumatisant post-attentat du 13 novembre, de créer une unité nationale, un espèce de consensus autour de la République. Et je reprendrai le mot de Jacques Toubon, sur cette antenne même, qui a dit qu'il espérait qu'après ces attentats, la République soit rehaussée. Et j'ai un peu l'impression que après ces deux mois d'atermoiement, d'aller-retour, de position tactique, la République n'a pas été rehaussée, mais rabaissée.
Nicolas Sarkozy, vrai phénomène, pas un phénomène politique, mais un vrai phénomène littéraire ou de libraire. Est-ce que finalement, 70 000, je rappelle le chiffre, 70 000 exemplaires vendus de son livre en 10 jours, des séances de dédicaces qui sont bondées dans les librairies, est-ce que finalement le mea culpa marche aujourd'hui en politique ?
D'un point de vue éditorial, pour son éditeur, oui, ça marche, parce que 70 000 exemplaires en 8 jours, ça veut dire que si on applique la règle que tout le monde, enfin, ça veut dire que ça fera au moins 250 000 exemplaires. C'est un peu comme le cinéma. Quand on voit le départ, on connaît peu ou prou le point d'arrivée. Donc c'est colossal. Donc de ce point de vue, pour lui, malgré tout, c'est un succès. Il peut être content de ça. Ça veut dire qu'il y a un lien encore avec un certain nombre de gens. Après, est-ce que ça veut dire que tous les gens qui achètent le livre le soutiennent ? C'est pas du tout gagné, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les sondages, on peut pas dire qu'il remonte. Donc, mais enfin, en tout cas, ça veut dire qu'il y a un noyau dur, on le voit dans les librairies d'ailleurs. Donc il y a un noyau dur de militants qui restent absolument fans de Sarkozy. C'est très important, malgré tout, pour une campagne, notamment une campagne de primaire, d'avoir des militants. Ça suffit pas. Maintenant, il faut qu'il arrive à élargir ce cercle-là, mais au moins, il a ça.
C'est la difficulté, Grégoire Bizot. Pour l'instant, on s'aperçoit quand même que, quand il passe dans les médias, ça marche pas très très bien. Ça marche en librairie, mais en termes médiatiques, le message a du mal à passer.
Il faut à la fois se méfier des sondages et se méfier des effets loupes, et je pense que les queues dans les librairies sont un effet loupe. La question qui se pose, et qui est une question totalement à mettre sur la table, si je puis dire, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy a changé comme il dit qu'il a changé. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Pendant cette émission de Parole et des Actes jeudi soir, Nicolas Sarkozy a quand même eu le culot d'affirmer devant les Français à plusieurs reprises que durant son mandat, le chômage a augmenté moins fort que l'ensemble de nos partenaires européens. Il l'a répété à plusieurs reprises. Or, il suffit de constater un tableau d'Eurostat pour s'apercevoir qu'au moins trois pays, l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, ont vu durant ce quinquennat leur chômage baisser. Il ne s'agit pas d'une petite affaire, il s'agit juste d'avoir une lucidité sur son propre bilan, et on le sait, fâché avec les chiffres, fâché avec son propre bilan, mais quand on vient vendre qu'on a changé et qu'on recommence à mentir de façon éhontée sur son propre bilan, sur la question centrale du chômage, j'ai envie de dire... il n'a pas changé.
Mais d'ailleurs, il ne dit pas qu'il a changé. D'ailleurs, le dirait-il que personne ne le croirait. Il passe son temps à dire « Je n'ai pas changé, un homme, ça ne change pas. Je me suis rendu compte d'un certain nombre d'erreurs. » À mon avis, la clé, elle est là. Il ne cherche pas à persuader les gens qu'il a changé. Personne ne le croirait. Il essaie de convaincre ses électeurs, ce 2007, ce 2012, qu'il a compris. C'est pas la même chose de dire « J'ai compris, j'ai changé. »
Est-ce qu'on peut, dans l'avenir, est-ce qu'on peut revoter pour quelqu'un qui fait un mea culpa aussi important ? C'est-à-dire « Je me suis trompé pendant 5 ans, je vous propose de ne pas me tromper dans les 5 ans à venir. »
Je pense que le mea culpa était nécessaire. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est tardif. Mais chez ses électeurs, le sentiment qu'il disait « J'ai tout bien fait, j'ai eu raison sur tout » avait quelque chose d'exaspérant, parce qu'eux voyaient bien que c'était pas vrai. Donc il fallait qu'il le fasse. Peut-être le fait-il trop tard. Peut-être est-ce que ce ne sera pas suffisant. Mais en revanche, ça me paraît absolument nécessaire. Nécessaire, sûrement, suffisant, pas forcément. Ça, on le verra. Mais juste, il veut juste dire... Non, mais il ne dit pas « j'ai changé », il dit « j'ai compris que... » Et il dit, c'est très intéressant, il dit « je ne suis pas allé assez loin ». Donc j'en ai pas fait assez sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie, sur les 35 heures. Donc, il parle à ses électeurs en leur disant ce qu'ils pensent. Les électeurs pensent ça, pensent pas que les médias disent qu'il en a fait trop. Les électeurs pensent qu'il en a pas fait assez. Il leur dit, vous avez raison. Est-ce que ça suffira à leur donner à nouveau envie de voter pour lui? Ça, on verra bien.
Grégoire Bizot, 10 secondes.
Non, mais c'est principalement un mea culpa de forme. Dire, je m'excuse d'avoir insulté un Français de pauvre con. Bon, ça va de soi. Mais d'être incapable d'avoir une lecture lucide et objective de son propre bilan, là, par contre,
dire je n'ai pas supprimé les 35 heures ou je ne suis pas assez loin sur l'immigration, c'est le fond, ça.
On arrive au terme de ce débat. Merci à tous les deux.
Mais vous restez, Alexis et Grégoire, parce que Alexandra va vous interroger.